Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour invité Fred. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast.
Mais merci à toi pour l'invitation.
Donc, je t'ai invité aujourd'hui car tu es agent immobilier et j'en vois partout. J'aimerais bien qu'on en parle et qu'on comprenne ce métier. Et je pense qu'il y a plein de difficultés. Voilà, j'aimerais en parler avec toi. Donc, tu es indépendant ?
Oui, tout à fait.
Ça fait depuis longtemps ?
Ça fait 3 ans et demi.
Donc, tu as commencé un travail de salarié dans l'immobilier ou tu as tout de suite fait de l'indépendant ?
Non, pas du tout. J'ai tout de suite commencé en indépendant. Je faisais un autre métier à la base et j'ai fait une reconversion professionnelle et j'ai cherché une boîte qui formait bien,
oui.
Parce que je pense que c'est important. Tu disais qu'il y avait beaucoup d'agents immobiliers, je te confirme, mais pas toujours très bien formés.
Ouais.
Et du coup, une fois que j'avais trouvé la boîte, je me suis dit tac, je me suis fait former et puis j'ai commencé à travailler. Ouais.
C'est quoi ? C'est genre un apprentissage ou c'est une formation continue ?
C'est une sorte de formation. Alors bon, c'est sur 3 mois, hein,
ouais.
C'est pas non plus sur plusieurs années, mais c'est effectivement en alternance puisqu'il y a une partie théorique. Il faut savoir que c'est un métier qui est très très théorique, hein, par rapport aux lois, tout ça. Et après, là, tout ce qui est formation terrain.
D'accord. Donc en 3 mois et après tu t'es lancé tout seul.
Et après, bam, on se lance.
Et t'as pas eu peur ?
Non.
Tu t'es dit YOLO, on s'en fout.
Ouais, c'est ça.
je
suis un peu un audacieux, moi, pour le coup. Pour le coup, le titre de l'émission me parle.
Avant ça, tu faisais quoi ?
Ton avis. Non, j'étais boulanger avant ça.
Ah ouais,
ouais.
C'est pour ça que tu m'as dit...
Oui, c'est pour ça.
Parce qu'en fait, il m'a dit que les boulangers, on les voit pas, alors que les agents immobiliers, c'est des gens qu'on voit, il y en a certainement autant l'un et l'autre.
Oui. Ouais, je pense même qu'il y a plus de boulangers que d'agents immobiliers.
Ouais.
Mais ils sont dans l'ombre.
C'est ça.
Dans les coulisses de la société.
Oh, je te voyais tellement pas. Je me suis dit, ouais, commercial.
Ouais, mais c'est ce que tout le monde dit toujours. Mais non, je te confirme.
Ah ouais, donc ça, c'est quoi ? Ça t'a. Comment dire ? T'as arrêté parce que ça prenait trop de temps, trop d'énergie, allergique à la farine ?
Eh bien, tout ça, figure-toi.
Elle est trop forte !
Ouais. Non, mais c'est vrai en plus. Mon dieu, elle m'espionne.
Ah bon ?
Non, c'est effectivement tout ça. Très très dur, autant physiquement que socialement et psychologiquement. Et effectivement, j'étais allergique à la farine, mais pendant plusieurs années, je prenais des médicaments à longueur de temps. Et puis un jour, j'en ai eu marre et je me suis dit, bon, il faut que je fasse autre chose.
Mais c'est assez récurrent en fait. Chez les boulangers d'être allergique à la farine.
Alors on va pas faire toute une dissertation sur ça, mais effectivement mais je pense qu'il y a des choses qu'on met de plus en plus dans les farines qui sont pas top non plus.
Ouais, ça j'allais dire, je pense que c'est pas la farine comme dans le temps.
Non, c'est clair. Mais cela ne nous regarde pas.
On parle pas dans la polémique de la farine.
Non, c'est clair.
Je m'y connais pas. C'est quoi la stratégie pour sortir du lot face à tous les agents immobiliers qui existent ?
Je t'avoue que j'ai pas de stratégie à proprement dit, j'essaie juste de rester moi-même. Je préfère faire mon métier comme je l'entends, au rythme peut-être moins rapide que d'autres ou plus rapide que d'autres, mais que d'aller à fond, que de cartonner partout et de faire un travail qui me ressemble pas. Donc voilà, je pense que c'est ça. Après, de toute façon, en travail de prospection, c'est là où c'est le plus compliqué, agent immobilier. Tu vas appeler quelqu'un, tu vas démarcher quelqu'un. Il y aura déjà 15 agents qui vont être passés avant toi, des certainement aussi bons que toi. Moi, je travaille énormément par de la recommandation, en fait. C'est des gens avec qui j'ai travaillé, qui me recommandent ailleurs, et parce qu'ils ont aimé ma personnalité, mon approche, mon professionnalisme. Et c'est plus comme ça que je me fais du travail.
D'accord. Ouais,
en restant moi-même, quoi.
Donc, il y a des gens qui ont leur bien et ils pensent à toi pour le vendre.
Voilà, c'est ça. C'est plutôt compliqué. Alors, il y a des gens, et moi, je leur ferai pas changer d'avis, mais qui pensent qu'ils peuvent vendre leur bien eux-mêmes.
Ouais.
Ça sert à rien de rentrer dans la polémique, est-ce que oui ou non. Mais par contre, il y a des gens qui sont complètement effrayés par cette démarche. Et ça peut se comprendre parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est beaucoup plus que mettre une annonce sur le bon coin. Et du coup, ils posent des questions à droite, à gauche. Tiens, bah, tu connais pas un agent immobilier qui est top ? Ah bah si, je connais Fred North. Voilà. Et puis c'est comme ça que ça marche.
Et parce qu'entre les lois et les choses qu'on doit faire, normalement, on doit quand même rendre une maison dans un certain état par rapport à un certain prix de marché.
Il y a des notions juridiques, il y a des notions fiscales. C'est pour ça que c'est très important de se faire former correctement quand on va dans ce métier. Mais après, il ne faut pas oublier qu'on vend un produit. Et il y a une certaine façon de le commercialiser, il y a une certaine façon de le mettre en avant, il y a une certaine façon après de le négocier aussi, déterminer un prix, pourquoi, comment, c'est pas si évident que ça.
Oui, parce qu'il y a plein de trucs qu'on ne sait pas, genre tu me disais, il n'y a pas de garage au Neudorf, etc., c'est extrêmement dur à en trouver, enfin...
C'est un exemple parmi tant d'autres, mais voilà.
Ouais. Mais il y a plein d'exemples que... Moi je regardais genre sur le Bon Coin pour des apparts, etc., mais... C'est vite compliqué, tu comprends rien. Enfin, même pour chercher un appart, c'est bien aussi d'avoir, enfin, d'acheter, de passer par quelqu'un, je trouve. C'est,
Il y a les deux. Enfin, et j'apprécie ta façon de penser, parce que si personne ne pensait comme toi, les agents immobiliers, ça n'existerait pas. Donc, effectivement, moi, je pense aussi que c'est plus prudent d'acheter via un agent immobilier. Maintenant, la problématique, c'est qu'on a aussi des gens dans le métier qui font n'importe quoi. C'est un petit peu comme un garagiste. Mmh. Moi, je préfère faire réparer ma voiture chez mon garagiste plutôt que la réparer moi-même. Je pense qu'au final, le résultat, il sera meilleur et plus sécuritaire. Mais t'as plein de garagistes tout le temps où tu sais pas si il est pro, si il t'arnaque, si ça. Et c'est un peu quelque chose qu'on retrouve aussi parfois dans le métier. Donc, effectivement, avoir quelqu'un qui connaît un agent immobilier de confiance, c'est déjà un premier pas, quoi.
Tu as déjà regretté d'être... de t'être lancé là-dedans?
Non, jamais.
En fait, comment tu t'es dit je vais être agent immobilier?
C'est un...
Parce que les formations, il y en a des milliers.
C'est un super long cheminement. Ça a mis plusieurs années où j'ai pas forcément pu changer de boulot quand j'étais boulanger parce que moi, je pouvais pas pour différentes raisons. Mais globalement, quand j'avais 20 ans, j'avais déjà tenté de faire une percée dans le monde du commerce où j'étais VRP, où il fallait vendre du vin. Et en fait, le taf, c'était... on avait des paquets gros comme ça de listes clients. Fallait les appeler, fallait essayer de décrocher un rendez-vous et fallait leur vendre du vin au forceps parce que c'était des bouteilles de vin qui coûtaient... Et j'avais détesté. En fait, j'avais adoré le contact client, mais j'avais détesté ce côté vente forcée, tout ça. Ça me correspondait pas trop. Et du coup, au fur et à mesure des mois et des années, je regardais les métiers qui pouvaient me convenir par rapport à ça. C'est-à-dire garder ce relationnel, mais être plus dans l'accompagnement des gens. Et du coup, agent immobilier, c'est tout trouvé, quoi.
Bah ouais, et en plus, c'est un métier assez... comment dire... Tu prends pas les gens pour des cons, comme VRP. Enfin, VRP, de là que t'avais.
Ouais, après, on va pas dénigrer les VRP, mais effectivement, le seul objectif, c'est de vendre. Quand t'es vendeur pur, c'est ton seul objectif. Or, jusqu'à preuve du contraire, moi, je pense pas qu'on peut obliger quelqu'un à acheter un bien immobilier.
Non, impossible.
Au bout d'un moment, il a tellement de portes de sortie qu'au bout d'un moment, même si t'es le meilleur vendeur du monde et que t'arrives à lui faire signer un compromis sur un bien qu'il veut pas, au bout d'un moment, il pourra de toute façon se désister parce que t'as plein de portes de sortie. Donc, faut vraiment être dans l'accompagnement, autant pour les acheteurs que pour les vendeurs. Mm-hmm. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer.
Donc, pas de doute, pas de regret. Même, t'es pas dit que ça allait être chaud. Non, tu t'es dit, c'est bon, c'est pour moi. Ça me correspond.
Je pense que au début, quand je me suis lancé, fallait une sécurité financière, clairement, parce qu'il faut payer un loyer, faut payer plein de choses, faut quand même un petit filet financier qu'on peut avoir en France. Malgré tout ce qu'on critique sur notre pays, il y a des choses qui sont cool, notamment, moi je me suis retrouvé au chômage, mais pendant 2 ans, j'ai touché de l'argent, ça m'a permis de me lancer tranquillement. Et puis après, je suis pas trop gourmand non plus, je fais pas ça pour l'argent. Mmh. Donc à partir du moment où j'ai suffisamment pour manger, payer mon loyer, et puis payer les réparations de ma voiture chez mon garagiste, je suis content. Donc, et c'est comme ça que ça m'a permis de me lancer sereinement et tranquillement.
Est-ce que tu as un échec à nous partager?
Oh, j'en ai un milliard.
Qu'est-ce que tu fais?
Un milliard d'échecs.
C'est plutôt normal.
À partager. Mon prof de théâtre m'a un jour dit que l'échec était le meilleur professeur.
Oui, mais non, mais exactement.
Et du coup, c'est presque une philosophie de vie de rechercher l'échec pour moi. Je fais un peu de théâtre aussi, je ne sais pas si on en parlera ou pas, mais c'est pareil, je vais chercher à... je vais chercher le bid, je vais chercher peut-être à pas forcément plaire, mais pour voir. Parce que, ouais, t'apprends tellement d'un échec. Et je sais pas, j'en ai plein à raconter, mais je sais même pas.
Même pas lequel il y en a trop.
Professionnel, c'est bah, peut-être mon ancien métier, même si c'est pas vraiment mon ressort, mais ça reste énormément d'investissement. Et au final, je me suis retrouvé à devoir arrêter d'une
Ouais.
manière ou d'une autre. Donc après, faut essayer de rebondir par rapport à ça. Au théâtre, j'ai eu plein de choses.
Vas-y,
The
parlons-en.
anecdote.
Vas-y.
Enfin, c'est pas
Attends,
l'anecdote, ça fait partie.
garde-la. Enfin, ça dépend. Un échec, j'aime bien les anecdotes, mais on peut en raconter plusieurs. Vas-y, raconte
De
celle-là.
l'échec de ouf.
Vas-y.
En fait, je faisais pendant ça faisait quelques années que je faisais du théâtre et de l'improvisation, et ça faisait quelques années que ça me trottait en tête de vouloir faire du one-man show. Mais maintenant, je peux le dire, j'ai 7, 8, environ 8 ans d'expérience dans le one-man show. C'est ce qu'il y a de plus dur à faire sur scène, parce que tu es seul, parce que c'est très technique, très pointu. Mais à cette époque, j'étais plutôt rigolo au théâtre, j'étais plutôt rigolo en impro, et il y avait une émission qui s'appelait On ne demande qu'à en rire.
Non, t'as fait ça. Non, t'as fait.
Et je me suis dit, tiens, je suis rigolo en théâtre, je suis rigolo en impro, est-ce que je peux pas être rigolo en one-man show?
Moi, je dirais oui.
Eh ben non, parce que c'est pas le même exercice. Et je me suis inscrit à On ne demande qu'à en
Oh.
rire. J'ai fait le casting d'On ne demande qu'à en rire. Et malheureusement, ou heureusement, ça dépend comment tu regardes, j'ai été pris pour cette émission. Et j'ai dû faire un sketch là-bas. Et c'était, allez, peut-être le deuxième ou troisième sketch écrit de ma vie. Je ne connaissais absolument pas ce monde, en fait. Et pour donner une image, c'est comme si tu te sentais capable de conduire une Formule 1 parce que tu fais bien de l'auto-tamponneuse. Et dans l'idée, c'est ça. Et je me suis retrouvé dans un truc de dingue où j'avais conscience de rien. Je ne savais même pas qu'un sketch, ça se rodait avant d'être joué. Enfin, j'étais vraiment débutant de chez débutant.
Ouais, moi, on demande qu'à en rire, c'est différent. Ah non, c'est pas ça.
On ne demande qu'à en rire, c'est le
Oui?
format où tu as quatre
Oui?
humoristes qui passent et puis tu as le truc qui
Mais tu
vote.
peux pas roder ça. Vas-y, pardon.
J'ai appris que si. J'ai appris que si. Les gens, et notamment Olivier de Benoît, qui était un des cadors de cette émission, moi, par la suite, je le croisais souvent à Paris quand je faisais des scènes ouvertes, parce que le gars, avant de présenter ses sketchs, il
Ah
allait faire
oui.
3, 4, 5
Ouais.
scènes ouvertes pour les roder. Donc les mecs travaillaient quand même un peu
Oui, ils
du
vont au
rodage avant.
Paname, etc., dans les cafés et
Exactement,
tout.
exactement. Le Changeman, enfin, il y en a plein de scènes ouvertes. Et du coup, je me suis retrouvé là, avec les caméras, tout ça. Donc, j'étais complètement stressé, j'étais hors de mon corps. Je me voyais jouer, en fait, j'étais même plus dans mon corps. Et arrivé ce qui devait arriver, je me suis fait buzzer. Ce qui était plutôt sympa, c'est que notamment Ruquier trouvait que j'avais un bon potentiel, parce que peut-être qu'il avait cerné que je faisais du théâtre, enfin, que j'avais peut-être
Ouais,
ça,
une
mais que c'était
présence.
pas du tout maîtrisé.
Ouais.
Et du coup, je me suis fait buzzer. Et buzzer à l'époque devant, je sais pas, 2 millions, 2 millions 5 téléspectateurs. Enfin, ça piquait un petit peu. Mais au final, je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'on fait? Soit on continue, enfin, on baisse la tête quand on sort dans la rue, et puis voilà, soit on va essayer de construire ça. Et au final, en effleurant un petit peu ce monde, je me suis rendu compte de tout ce que je devais mettre en œuvre pour arriver à réussir quelque chose de pertinent. Et j'ai travaillé comme un fou. Et aujourd'hui, je suis 100 fois, 1000 fois meilleur que le jour de ce passage-là.
C'est
Mais
normal.
parce que j'ai cet échec d'être tombé par terre comme ça m'a permis de rassembler l'énergie pour me relever et devenir plus fort. Ça paraît très cliché, mais c'est la réalité, ouais.
Bah, tu connaissais rien. Tu pouvais... Enfin, il y a mon coach en boxe, il dit toujours, quand on est débutant, on peut que évoluer, en fait.
Oui,
La marge
c'est
de
ça.
progression, elle est
C'est
énorme.
ça. Mais après, il faut le décider, il faut le vouloir. Et y a les gens qui s'arrêtent à un échec, c'est pas une fin, c'est
Non.
un début.
C'est
Donc
ça.
voilà. Ça te plaît comme exemple
Ouais,
d'échec ou
non,
pas?
mais je
C'est
savais pas que
sympa,
t'étais
hein?
allé là-bas.
Si, mais c'était du coup il y a très longtemps maintenant.
Ah ouais, mais toi, t'as pas peur de la télé, en fait, hein.
Non, mais après, j'aime bien tout ce qui est mis en danger. Encore
Ah
une fois,
ouais.
ça fait partie de. Donc, donc ouais.
Et après, les gens, ils ont dit quoi? Et quand ils t'ont croisé, ils t'ont dit, ouais, c'est bien, tu l'as fait, t'as osé, ou ah, t'es trop nul.
Bah, Non, je sais. Après, ça reste quelque chose de. Je pense que d'une manière générale, les gens sont plutôt bienveillants. Après, bon, à l'époque, je pense que les réseaux sociaux et Twitter n'étaient pas développés comme ça l'est aujourd'hui. Du moins, à l'époque, je n'avais pas regardé les commentaires, mais je ne me suis pas fait humilier. J'ai
Ouais.
pas. Les gens sont plutôt. Ouais, sont plutôt bienveillants. Et puis, ils se rendent compte de. Ils se rendent compte de ce que c'est, de ce que ça implique. Donc, si tu te plantes, je pense que justement, j'ai fait preuve d'humilité aussi par rapport à ça. S'il y en a qui se plantent, mais qui disent oui, cette émission c'est de la merde, si ça, qui ont un peu plus le melon, c'est un peu plus compliqué.
Ouais.
Mais non, dans l'idée, tout le monde était plutôt bienveillant. Après, les gens qui m'aiment pas, je sais qu'ils ont ri de cette situation, mais
Oui, mais comme partout, quand on se plante,
c'est
les
ça.
haters, ils sont trop heureux.
Exactement.
Donc voilà, tu fais du théâtre, tu fais Toastmaster, tu fais des One Man Show.
Oui.
Donc ça va au niveau présence, personnalité, parler, c'est plus facile aussi pour ton métier. T'es pas timide en fait.
Ben en fait, je pense que c'est pour ça qu'on m'a donné ma chance dans l'immobilier aussi.
Ouais.
Parce qu'à la base, en tant que boulanger, j'ai juste un CAP. Enfin, j'en ai deux, mais ça se cumule pas. Voilà, j'ai pas fait de longues études ni quoi que ce soit. Donc, j'ai dû m'accrocher pour assimiler tout ce qui était fiscal et juridique. Mais du reste, en clientèle, effectivement, oui. Puis je vais même chercher à les faire rire. Enfin, ça fait partie de. Je tends vers le rire,
Mais le
toujours.
rire marche trop, que ça soit. Moi, je l'utilise si j'ai des entretiens d'embauche.
Ouais, mais moi je suis
C'est.
pareil.
Voilà. Genre. Je sais
C'est.
que si. Comme une relation, je dis, je me sais que si je fais rire la personne, il
Ouais,
y a
c'est ça.
moyen qu'elle m'aime bien.
Ouais. Non, mais je suis exactement pareil. Donc après, effectivement, on donne peut-être plus facilement ta chance que si t'es timide et que t'arrives pas à parler, ça c'est clair.
De toute façon, agent immobilier qui ne peut pas placer deux mots dans une. Enfin, même pas qu'on soit une phrase, c'est compliqué.
Oui, c'est clair,
Genre, bon, ben voilà. Ok.
ouais.
C'est une
C'est
maison.
une salle de bain.
Une douche. Non mais ouais, ça serait pas. C'est moins vendeur, ça donne moins envie, tu vois, de se dire je vais signer avec lui pour une habitation qui va me durer 20 ans. Est-ce que j'ai envie de lui donner la commission? Voilà.
Ouais, après, bon, après, c'est clair que si l'agent immobilier fait pas bien son taf, ça te fait chier de lui signer un chèque de 20 000 euros.
Ouais,
Mais
voilà.
dans l'idée, moi, je reste dans la même optique de penser que tu peux pas forcer quelqu'un à acheter ou pas acheter.
Oui.
Je pense que, et je le sais parce que j'ai mon meilleur ami qui a acheté une maison où il y a eu beaucoup de problèmes avec l'agent immobilier, mais globalement, il a eu le coup de cœur sur la maison, il n'y a rien qui va pouvoir changer
Ah
ça,
oui,
quoi.
voilà.
Après, tu dis, c'est chiant que tu es un intermédiaire avec qui ça se passe pas bien, mais l'objectif final, c'est le bien. Et si tu as un coup de cœur sur le bien, ou à l'inverse, si le bien, tu peux pas le piffer, tu peux avoir le meilleur agent immobilier du monde, à un moment donné, tu vas lui dire merci,
Ouais.
c'était une visite agréable, mais la maison me convient pas, quoi.
Et pendant 24 heures, tu fais quoi? Tu sautes partout ou ça va?
Ben, quand ça se passe bien, pendant 24 heures, je suis un peu.
Une pile.
Je suis usher dans ma tête, tu vois, je suis. Tac!
Tu es trop une bête.
C'est ça, je suis un peu. Dans ma voiture, j'ouvre la fenêtre, je mets la musique à fond, même s'il fait moins 12 degrés, tu vois, ouais, avec mes lunettes de soleil alors que c'est la nuit. Ouais, putain, je gère trop.
J'espère que t'as une bonne voiture pour faire ça parce qu'en Twingo ça passe pas.
Non, j'ai pas une très belle voiture, mais. Après, c'est ce qui se passe dans ma tête pendant ces 24 heures qui est important, c'est pas.
Si une fois je te croise comme ça, je sais que t'as eu un.
C'est ça. Tu dis, ah tiens, Fred, il a une bonne nouvelle là.
Et moi, je veux savoir, vu que t'es agent immobilier, t'es seul, t'as pas des fois la solitude de l'entrepreneur?
C'est pour ça que j'ai besoin de faire de l'artistique à côté, je pense. Vraiment. Quand pendant 2, 3 semaines, 1 mois, j'arrive pas à jouer, à créer, au bout d'un moment, ça me démange. Et ouais. Après, je rencontre énormément de monde tout le temps. En fait, je suis pas juste dans un bureau. J'ai la chance de rencontrer les gens en vrai aussi, ce qui est pas forcément le cas pour tous les métiers. Donc au final, je suis pas seul seul. J'ai pas de collègues. Enfin, j'en ai, mais on travaille pas vraiment ensemble puisqu'on a chacun nos secteurs. On se partage que très rarement du travail. Mais du coup, ouais, c'est pas trop pesant en fait,
Ouais, ça
je
va.
trouve.
En fait, vu qu'on peut pas se confier aux collègues, etc.,
Ouais.
Enfin, il y en a qui cherchent ça, qui ont
Après,
besoin.
j'ai des collègues slash amis où justement on a dépassé un petit peu la relation purement professionnelle et quand on a des coups de mou ou quoi, on en parle donc
Ouais.
et qui vivent la même chose donc.
Mais en fait, t'es comment dire, ton t'es agent immobilier pour toi, mais vous êtes chapeauté par
En fait, dans l'idée, on est un réseau.
un réseau, ouais, voilà.
Un réseau, je suis. C'est pas Frédéric North
Agent immobilier,
Immobilier,
ouais.
c'est Frédéric North Néo Concept Immobilier, c'est le nom
Ouais, voilà.
de mon réseau. Et dans ce réseau, on est, je crois, 25, mais on est
Mmh.
répartis sur un petit peu toute la région. Et après, les plus proches sont pas forcément ceux avec qui on a plus d'affinités, inversement proportionnel. Enfin voilà,
Oui.
on n'est pas des collègues de bureau,
Mmh.
donc dans l'idée, on ne se croise pas tous les jours à 8h30 à la machine à café à dire hey, salut, et ta femme, elle va bien. Donc c'est plus ouais, par affinité.
Oui.
Mais il n'y a rien qui nous oblige, qui nous force ou qui nous incite à travailler ensemble en fait.
C'est ça.
C'est si on a une affaire commune. Je donne un exemple. Si j'ai par exemple un bien à Mulhouse, je vais plutôt travailler avec le gars de Mulhouse plutôt que de faire la route,
Oui.
être pas du tout pertinent sur le secteur ou quoi que ce soit. Voilà, c'est plus dans ce cadre-là qu'on travaille ensemble à proprement dit. Et même là, on se voit deux fois et puis après, chacun gère ses trucs de son côté. Mais on n'a absolument pas de collègues de boulot, ouais.
Mais des
De
fois,
bureau.
vous réunissez ou...
Oui, alors jusqu'à présent, on faisait des réunions à peu près une fois par mois, une fois tous les 2 mois, où tout le monde se voyait. Mais du coup, maintenant qu'on a dépassé les 25 personnes, ça devient très
Ouais.
compliqué. Et du coup, même là, on est obligé de séquencer. On fait secteur, ben voilà, c'est secteur nord, secteur Strasbourg, secteur sud, enfin voilà. Et même là, on voit plus forcément tout le monde. Et le seul moment où tout le monde est à peu près réuni, c'est à la fête de Noël. Mais là, c'est pareil, tu vas t'asseoir avec ceux avec qui tu as le plus d'affinité parce que tu
Oui.
les as pas vus depuis 2 mois. Et puis, donc voilà, ça fait partie du job, quoi.
Oui, voilà, c'est pas, tu t'es pas lancé, enfin, t'as quand même, tu l'es lancé avec une petite structure quand même
C'est
qui
une structure, mais encore une fois, c'est
est
pas.
indépendant quand même.
On n'est pas. Mais je le voulais aussi. Et puis, même dans ma gestion du temps, du travail, comme je fais beaucoup de choses, théâtre, formation, tout ça à côté, pour moi, c'était aussi prépondérant d'être indépendant et que personne ne me dise comment gérer mon emploi du temps, comment travailler, à quelle heure travailler. Voilà.
Mais comment tu gérais avant toutes ces activités? Quand tu étais boulanger, tu ne pouvais pas faire tout ça?
Si, parce qu'en fait, quand j'étais boulanger, je finissais à 10-11 heures le matin.
Ouais, mais enfin,
Donc,
tu te couches tôt.
ouais, oui, certes.
Ouais.
Les fois où je jouais, c'était un peu, ça piquait le matin
Ouais.
quand je me réveillais. Mais dans l'idée, j'avais toute la journée libre, en fait. Après, effectivement, quand j'avais des périodes où je jouais ou quoi, j'avais des grosses cernes. Mais c'était une organisation différente au final.
Parce que tu te levais quoi à 2h, 3h?
Ouais, ça dépendait des jours, mais dans l'idée, c'était ça à peu près, ouais.
Voilà, faut avoir le courage de jouer le soir et de dire, bon, alors dans 2h, je me lève.
Ouais, mais oui.
Wouhou!
Bon, après, c'est pour ça que j'ai arrêté aussi à un moment.
Ouais, tu peux pas tout faire,
C'est.
quoi. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle d'être entrepreneur?
Moi, à l'heure actuelle, je reviendrai pas en arrière. Je reviendrai pas salarié. Maintenant, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. La problématique de l'entrepreneur, c'est que c'est tous les jours une remise en question. Tous les jours, on repart de zéro. Moi, si demain, je vends rien, je n'ai pas de salaire. Donc, c'est toujours une remise en question. Et la vérité d'aujourd'hui sera peut-être pas celle de demain. Peut-être qu'à 45 ans, j'en
Ouais.
aurai marre de. J'aurai besoin d'une sécurité, plus forte que ça. Même si je pense qu'elle est illusoire, parce qu'aujourd'hui, tu es salarié, tu peux aussi te retrouver au chômage du jour au lendemain. Mais là, aujourd'hui, ouais, le jour en vaut la chandelle, ouais.
Ouais, parce qu'on parle d'aujourd'hui. Après, c'est comme moi, ça se trouve dans 2 ans, je serai plus
Je
entrepreneur.
pense
Je ne
qu'il
sais
faut
pas.
l'accepter. J'ai une fois discuté avec une courtière qui me disait, et je suis tout à fait d'accord avec elle, qui me disait, voilà, demain, ça se trouve, je vais devoir travailler en usine. Ne serait-ce que pendant 6 mois, histoire de se refaire un petit matelas, mais faut l'accepter juste. Et moi, dans ma tête, c'est clair que si un jour ça va plus, que pendant une période j'ai plus plus assez d'affaires ou de quoi que ce soit, ben, j'irai bosser à Decathlon pendant un temps pour. Mais c'est clair, j'ai pas de problème avec ça. Pas de problème à reculer pour mieux sauter.
Quand on est entrepreneur, il y a des phases à vide, il faut les accepter. Soit on donne beaucoup d'énergie, on travaille encore à fond, soit ouais, on essaie de trouver un autre travail à côté pour compenser, quoi.
Oui.
Mais ouais, tout met du temps et c'est clair, c'est l'accepter qui est le plus dur. Tu dirais quoi à tous ceux qui veulent se lancer et qui ont peur dans l'entrepreneuriat ?
Je leur demanderais de quoi ils ont peur.
Ouais.
Pour essayer, en bon commercial, je poserai d'abord des questions pour apporter des réponses. Tout dépend de quoi ? Je pense qu'encore une fois, on est dans un pays qui file pas mal de coups de main. Si c'est fait correctement, on a quand même possibilité d'avoir un filet de sécurité. Après, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Il faut vraiment le sentir. Je pense qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à devenir entrepreneur. Parce que c'est justement là où il risquerait d'y avoir un retour de manivelle violent. Si les gens le sentent au fond d'eux, si faut qu'ils se lancent, faut qu'ils assument leur choix et leurs responsabilités. Et puis un échec, c'est en train de changer dans notre culture, hein, objectivement. Je pense que petit à petit, on est une génération qui accepte de plus en plus l'échec. De par l'américanisation de notre société, de tout ce qui est conférence, tout ça, où tu te rends compte que même ceux qui ont réussi le plus, ils se sont pris des sacrés tôles. Hein.
Bah, ceux qui sont riches maintenant, c'est qu'ils ont pris des grosses tôles dans tous les sens, que ce soit se faire virer, perdre beaucoup d'argent.
Bah, y a l'exemple de Ray Kroc. Si vous avez l'occasion de regarder le film Le Fondateur.
Oui.
Qui parle.
Ouais, je sais pas, moi j'aime pas le personnage. Je trouve que c'est une horrible personne.
Bien sûr, mais dans l'idée, sans parler de est-ce que c'est une belle ou une horrible personne, c'est quelqu'un qui a réussi à plus de 50 ans.
Ah oui, par rapport. Oui.
Toute sa vie, il a tenté des choses qui n'ont pas marché. Il a réessayé, il a truc, et un jour il a trouvé. Donc il n'y a pas d'âge, forcément, pour. Et puis, si on a quelque chose, si on a cette flamme en nous. Regardez le parcours de Simon Sini aussi, qui aujourd'hui est business angel, hein, qui sponsorise plein d'entrepreneurs, qui a vendu Mythique à l'époque pour 500 millions de dollars. Enfin, et dans son parcours, il raconte exactement ça. Il s'est planté, il a monté des boîtes, il a perdu de l'argent, il a avancé, suivez ce que vous avez au fond de vous, et puis voilà.
C'est ça qui est important.
Il ne faut pas que l'argent, ce soit une finalité aussi, je pense. Ça, c'est super important.
Bon, après, il y en a, ils courent après ça.
Ouais, je pense que c'est... Enfin, moi, c'est un avis qui m'appartient, mais je pense que c'est une erreur. Il faut plus chercher la stabilité émotionnelle, faire quelque chose qui nous plaît. Après, il faut gagner de l'argent. Encore une fois, on n'est pas dans un pays où les choses sont gratuites, où voilà, faut quand même gagner de l'argent, mais avoir l'argent comme moteur principal, je pense que ça nous fait pas aborder les choses avec sérénité et du bon côté.
Parce que j'ai fait un podcast, mon premier, avec Jules, et il disait, on a en fait, il y a un concept qui s'appelle les 3 F, c'est le fun, le fame ou la fortune, et en fait, sans le juger, chacun choisit vraiment ce qu'il
préfère. Oui, c'est ça, c'est
Et souvent, c'est un moteur. Il y en a qui ont la fortune. Mais après, la fortune, c'est vraiment le... Je pense que c'est aussi pour combler quelque chose, fortune.
Oui, c'est clair. Après, moi, je préfère acquérir de la fortune parce que j'ai fait du fun.
Ouais. Tu croises tout.
Ouais. Non, mais voilà. Et puis, je pense que ça se ressent aussi dans mon approche, dans ma personnalité, dans... Je ne me verrais pas arriver sur un bien à me dire voilà, ce bien, et je vais gagner tant et tant dessus, si, ça. Parce que je pense qu'après, ce qu'on dégage, ce n'est pas forcément.
En plus, franchement, j'ai déjà vu des appartements à Kléber, genre à 1 million d'euros. Déjà, je trouve à Kléber, c'est trop chiant d'habiter là-bas. Non, mais je me dis, ça va être la Java tous les soirs. Mais ouais, si tu veux gagner beaucoup d'argent, tu te places sur des biens qui valent plus d'un million d'euros et c'est bon, quoi.
Ouais, après, on choisit pas forcément. Hein. Non, on va là où on nous appelle, mais...
Après, tu peux accéder à une sphère comme ça, quoi.
Oui, c'est clair, c'est clair. Mais après, moi, c'est pas... Encore une fois, c'est pas forcément ce que je recherche.
Oui, voilà.
Je dis pas, alors, si vous avez un appartement à 1 million à vendre, n'hésitez pas à me le confier. Je dis pas que je n'en veux pas.
Là, tu travailles plus pendant 6 mois, t'es tranquille, genre... Non, t'as le matelas pour 6 mois.
Voilà. Ouais, ça, je sais même pas.
Le reste, c'est bénef à côté, ben... Bon, non, mais il y a des... tellement des beaux apparts à l'Orangerie ou genre Avenue des Vosges. Je sais même pas le quartier le plus cher de Strasbourg, c'est lequel.
Je pense pas qu'il y ait un quartier qui soit plus cher qu'un autre particulièrement, mais j'ai déjà pu croiser quelques apparts qui étaient complètement dingues.
Ouais. Oh, les apparts, c'est la folie. Tu la regardes, tu fais waouh, ah, il y a trop de zéros.
Oui, c'est quoi là? C'est
Grave.
c'est en francs?
Dites-moi que c'est en yens. Non, mais ouais, il y a des. Franchement, on a de la... je trouve que à Strasbourg, il y a vraiment du cachet au niveau des biens en plus. C'est ouest de. Attends, je vais essayer de prononcer ce nom de village. Je vais pas y arriver.
Trustersheim,
Je suis du
c'est ça
Haut-Rhin,
que tu... Ah, t'es du Haut-Rhin. Eh ben, je vais te laisser, d'accord? C'est la fin de ce podcast.
C'est vrai que c'est le village. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui ont de la thune qui vivent là-bas parce qu'au mètre carré, ce sera pas cher. Enfin, je sais pas, c'est une légende urbaine.
Non, alors en fait, Trustersheim, c'est très cher, très recherché. Pourquoi? Parce qu'on est à 15 minutes de Strasbourg et c'est la banlieue strasbourgeoise en
Ouais, mais je
fait.
trouve qu'il y a pas de... Pour y accéder, c'est compliqué.
Non, pas tant que ça. C'est comme dit, c'est alors peut-être que le matin avec les bouchons, on met
Oui.
un petit peu plus, mais maintenant il y a le GCO qui
Ouais.
va passer juste à côté, qui va nous permettre de prendre l'autoroute direction sud ou nord tout de suite. Et puis ça reste un village. Ouais, c'est un des premiers villages. Bon, il y a Stutzheim, il y a Mittelholzbergen,
Ouais.
tout ça, mais ça reste pas très loin de Strasbourg.
J'ai l'impression que c'est le village hyper hype pour les gens qui ont de la thune et ils disent qu'au mètre carré c'était pas cher, j'ai jamais compris. En fait, c'est pas vrai.
Ouais, après, au mètre carré, c'est pas cher, ça dépend de combien tu gagnes, et ça
Ouais.
dépend du bien, et ça dépend de plein de
Si
choses.
tu roules avec une grosse Ferrari, ça va, ça passe. Ah
C'est
ouais, non
ça.
mais.
Ouh, 5 000 euros du mètre carré,
Non
c'est
mais
pas très
comme quoi il y a
cher.
des gens. Moi j'ai entendu comme quoi le PDG de Peugeot aurait une maison là-bas, je sais pas.
Ouais, ça, je pourrais pas
C'est des
te
légendes.
parler
Enfin, je sais pas si c'est une légende
de.
urbaine ou pas vraiment ce village.
Ben, encore une fois, c'est. Mais il n'y a pas que ce village-là, c'est un peu tout ce coin-là, ce
Ouais.
secteur-là. Effectivement, c'est un chouette coin. Et encore une fois, on n'est pas très loin de Strasbourg. Donc, ouais, il y a les avantages sans les inconvénients, j'ai envie de dire, parce que tu es quand même après à la campagne, tu es.
En fait, c'est plus cher presque d'habiter en périph' de Strasbourg que dans Strasbourg. Je sais
Non,
pas,
ça je dirais
non.
pas quand
Non?
même. Non, parce que j'ai déjà croisé des appartements à 500 000 euros à Strasbourg Centre où tu te dis à 500 000 euros, tu t'éloignes un petit peu justement dans ces zones-là, tu as déjà une chouette maison avec du terrain, tout ça. Donc ça dépend des biens, il n'y a pas vraiment de règles.
Oui.
Il n'y a pas vraiment de règles.
Parce que la Cruteno, genre
La Cruteno, c'est super cher.
70 000, 70 mètres carrés, 340 000 euros. Oh, ça fait
Ouais,
mal!
c'est. Mais c'est. Le marché immobilier, c'est l'offre et la demande.
Ouais.
C'est tout simplement. C'est ce qui détermine le prix. Donc, si tu es dans un secteur Neudorf, c'est très très cher, très très compliqué. Parce que par rapport à la demande, il y a très peu de biens. Et du coup, on est sur des tarifs qui sont très hauts. Voilà, tu parlais de la Cruteno, pareil, oui, on est sur du 4 000, même parfois plus, selon le cachet du bien, euros du mètre carré. Mais parce qu'il y a des gens qui veulent habiter là, parce que t'es au centre-ville, parce que si demain, t'as plus personne qui veut habiter ici, le bien vaudra
Rien.
200 000 euros,
Ça va s'il
même pas.
partait alors, comme ça je peux
C'est
acheter.
ça. Le coronavirus, voilà
Dégagé.
voilà ce qui va faire baisser le prix de l'immobilier à Strasbourg.
Mais là, parce que tu disais, ben voilà, ma mère m'a dit, ouais, quand elle regardait M6, etc., tu disais que
Ah,
vous.
parce que j'ai
Non,
fait
non, non,
M6, on
non,
l'a pas encore dit, hein,
on
non.
va pas en parler. Si vous voulez regarder, il y a le replay. Mais comme quoi c'était dur d'acheter à Strasbourg. Elle m'a lancé ça comme ça, j'ai fait ouais, de toute façon, je peux pas acheter.
En fait, c'est ce que je disais il y a 30 secondes sur Neudorf. Ce qui est dur, c'est qu'il y a une demande qui est beaucoup plus importante que l'offre. Et on est dans un marché complètement déséquilibré par ça. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est notamment parce que les taux n'ont jamais été aussi bas et que quasiment tout
Voilà.
le monde peut acheter. Aujourd'hui, on a un panel d'acquéreurs incroyable. Et moi, et suite à l'émission aussi, parce que les gens pensent que je suis chasseur d'appart en
Ouais.
vrai, ce qui n'est pas forcément le cas, mais dans l'idée, j'ai tous les jours presque des gens qui m'appellent et qui me disent, voilà, je veux ça, ça et ça. Je leur dis, ok. Je vous note sur mes critères d'acquéreur et je le fais, mais vous êtes déjà 10, 15 sur cette liste pour le même bien. que j'ai même pas en plus.
Ah oui.
C'est donc le jour où je l'ai, enfin aujourd'hui on est capable, et c'est ce dont on parlait dans l'émission notamment avec avec Monsieur Plaza, c'est que aujourd'hui on a la capacité de vendre un bien sans même l'annoncer, sans même passer par justement tous ces biais qui sont le Bon Coin, Logique Immo, tout ça, parce que on a des listes d'acquéreurs qui sont longues comme le bras, et on a la capacité, quand on a un bien, de faire, je sais pas, 5, 10, 15 visites sans même poster d'annonce, juste en rappelant ses contacts.
Bah, par exemple, pour chercher dans la location, c'est un enfer.
Oui,
la location,
et la location, c'est un petit peu le marché un petit peu gangréné, notamment par tout ce qui est Airbnb, tout ça. Hein.
Ah oui, mais ça devient un calvaire, ça fait augmenter les prix, les Airbnb.
Complètement, ouais. Et je m'occupe de temps en temps de studios, qui là, pour le coup, sont vraiment destinés à des étudiants. Et je peux mettre en location un studio au mois de décembre, alors que la rentrée est déjà faite depuis 2 mois. J'ai encore des piles dingues de dossiers, et en plus de ça, des chouettes dossiers, mais de personnes qui font leurs études à Strasbourg, par exemple, et qui n'ont pas trouvé de quoi se loger. Pourquoi ? Parce que les petits biens, les trucs comme ça, c'est gangréné par du Airbnb, du truc comme ça. C'est, bon, après, encore une fois, c'est...
Ouais, c'est un débat.
Ouais, c'est un autre débat. Mais dans l'idée, c'est vrai que pour le pauvre jeune qui vient faire ses études à Strasbourg, c'est dramatique, quoi.
C'est ça, moi, j'ai eu la chance de trouver un appart en 2-2, mais j'ai vraiment eu la chance. Genre, j'étais dans les premiers à appeler, j'ai posé mon dossier bien direct, et il a dit... Ok, prenez-le, parce que sinon je n'aurai jamais mon appartement.
Mmh. Oui, c'est ça, ouais.
Et même, je sais qu'en hypercentre, les loyers, c'est n'importe quoi, les murs sont pas droits, enfin, il y a des appartements...
Ouais, mais ça, c'est le cachet de l'ancien, ça.
3000 euros de frais d'électricité, enfin, de chauffage, enfin...
Ouais.
C'est un peu un problème. Un mot pour définir le type d'entrepreneur que tu as.
Waouh. Ah, un seul mot.
Ouais,
je dirais quand même dynamique.
Dynamique, ouais.
Ouais. Voilà.
Ça va, ça te résume bien.
Je voulais dire guacamole, mais aucun rapport, donc je dis dynamique.
Ouais, dynamique, parce que tu te sens à fond.
Ouais.
Ça va, t'arrives à dormir la nuit ?
Oui.
Ouais, c'est
parfois.
C'est une grosse question que j'ai envie de mettre maintenant. Est-ce que tu dors bien ? Ça va ? 8 heures de sommeil
Ouais, non, mais tu peux la mettre, cette question.
T'arrives,
je pense,
à tout
que t'aurais.
Gérer en même temps.
Ben, après, comme tout le monde, hein, y a des fois, je vais avoir le cerveau qui mouline trop, et puis d'autres fois, je vais dormir comme un bébé. Comme tout le monde, j'ai pas de soucis particuliers. Merci de t'en inquiéter.
Non, mais ça,
tu veux qu'on parle de mes selles ou pas ?
Dans le prochain épisode.
Alors, comment vont vos selles ? Alors en ce moment, c'est un peu tendu. Je t'avoue que j'ai une affaire qui veut passer sous le nez. Ah, j'y ai pas fait pendant 3 jours. Hein. Merci beaucoup. Une analyse pertinente et médicale.
On sait jamais, ça peut stresser tellement, hein, tu sais pas.
Mais oui.
Ah, c'était une convidence.
Mais non, mais je pense qu'effectivement, il y aurait tout un podcast à faire sur les problèmes gastriques des entrepreneurs.
Ouais, je pense. J'ai pas envie de... Non, non, non. Parce qu'il y a des gens que je connais pas plus que ça, j'ai pas envie de savoir. Non, même les gens que je connais, j'ai pas envie.
Non, mais on rigole. Mais hier. Non, mais plus sérieusement, c'est important de bien manger quand on est entrepreneur.
Hier, il y a eu quoi ?
Non, mais hier... Mais là, du coup, c'est sérieux. Je vais pas forcément parler de mes selles, hein, mais... mais hier, j'ai une journée tellement dingue que le midi, j'ai mangé sandwich et une part de pizza.
Ouais.
Et le soir, j'ai mangé fast-food. Mais parce que j'avais à chaque fois que 20 minutes pour manger, tu vois. Et là, il faut faire attention. Il faut se préserver.
Ah, oui.
C'est pas parce qu'on bosse comme des dingues que... parce qu'on va le payer un jour.
Oui. Moi, j'ai healthy.
Ouais.
Quand même. Et en plus, si tu manges des... tout ce qui est légumes, etc., c'est mieux pour la selle. Bref.
Mais... Et je vous dis, c'est Priscilla Simès. C'est... Bah écoute, j'ai appris quelque chose, mais je suis content d'être venu quand même.
Quel est ton plus gros défaut ?
Je suis trop perfectionniste. Non, c'est vrai. Je suis trop exigeant envers moi-même, en fait. Voilà.
Non, on n'est pas un entretien d'embauche.
Ben voilà, mon pire défaut, c'est que je suis sarcastique.
D'accord.
Je suis sarcastique. Je suis tout le temps... en fait, je suis pas entrepreneur par choix. Je suis entrepreneur parce qu'il n'y a jamais personne qui a voulu m'embaucher.
C'est vrai.
Parce que moi, en entretien d'embauche, les questions cons, je les déteste, tu vois.
Ouais. Mais moi, on me l'a fait, les trois qualités, trois défauts. Nul. Moi, j'ai dit... j'étais au téléphone et je fais... Sérieux ? On va vraiment faire ça ? Ça n'existe plus, ce type de question.
Et en fait, moi, je me souviens d'une fois, et du coup, je le reprends dans mon spectacle, où le RH me demande... si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez ?
Il me l'a posé, Jules.
Et j'ai répondu magicien.
J'aime bien ça !
Voilà. Mais tous ceux qui écoutent ce podcast, je vous invite à troller les RH qui vous posent cette question et dites magicien. Et je te jure, c'est vrai. Et le mec, il a fait, d'accord ? Bon, ben, on va se rappeler. Voilà, et c'est pour ça que je me suis dit, allez, je vais me lancer à mon compte. Comme ça, j'aurai
pas. Non, mais c'est marrant. Franchement, elle est trop bonne. Elle est incroyable, la réponse.
Mais ouais. Voilà.
Je suis jalouse. Non, bravo. Non mais ça c'est le talent tu vois de savoir
Non mais c'est... en fait c'est le talent oui et non parce que je vais toujours trouver le truc et du coup quand des fois il y a des situations qui sont tendues tu vois de lâcher une vanne d'être sarcastique c'est pas toujours bien vu tu vois mais encore une fois moi je tends toujours vers l'humour et voilà.
Et les gens ils se disent pas ouais tu fais de l'humour vas-y sors-nous une blague.
Ah ça c'est chiant ça mais oui ça arrive ouais.
Allez
avant ils me disaient ça. Quand je disais que j'étais boulanger, il me demande ah, alors c'est quoi ta spécialité ? Les arrêts maladie. Ma taille, je suis 1m95, ça se voit pas là au podcast, mais je suis très très grand. Tu fais du basket ? Non, pourquoi t'es jockey, toi ?
Moi, je pourrais être jockey, vu ma
taille. Toi, tu pourrais être jockey, c'est clair. C'est clair. Et maintenant que je suis agent immobilier, c'est « Ah, trop cool, je cherche un appartement 3 pièces au Neudorf à 200 000 euros. » Oui, bon, voilà. Il y a toujours un peu des questions comme ça.
Après, on a des étiquettes, ça qui est chiant.
Ouais, c'est rigolo. C'est rigolo. Après, quand t'apprends à rebondir dessus, justement.
T'es basketteur, j'adore.
Mais non, je suis pas basketteur, justement.
Est-ce que tu as une anecdote honteuse en plus à nous raconter que... Enfin, dans ton métier, justement, d'agent immobilier. Tu as eu un truc que tu t'es dit « Oh là !»
Oh oui, j'ai une fois... J'ai une fois fait une visite à des personnes qui étaient là avec leur ado. Et la visite se passe super bien et tout. Et à un moment, on arrive dans la chambre parentale. Voilà, chambre 15 mètres carrés, super. Et là, la chambre pour le jeune homme. Et ils me regardent et ils me disent « Non, non, mais c'est une fille. » Et je savais plus où me foutre.
Il était là ?
Ouais, il était là.
Ah, enfin, elle était là.
Elle était là, accompagnée comme ça, tac, bonjour, comment ça va ? Et en fait, je pensais, c'était quelqu'un de très androgyne.
Oui.
Et moi, je pensais que c'était un garçon. Et en fait, c'était une fille. Mais je savais plus où me foutre.
Est-ce que le sarcasme est arrivé à prendre le dessus pour...
Ouais, j'ai essayé de faire une petite vanne, tac, et puis passer rapidement à autre chose, mais ouais.
Impossible.
Genre, je suis un peu pied dans le plat aussi, des fois, donc... Ouais, j'ai pas réfléchi à une... T'aurais dû me demander ça en amont, je t'aurais préparé une liste de tous les trucs honteux que... Ok.
Et pendant l'émission d'M6, c'est un truc honteux ? Parce que...
Alors...
Je vais d'abord dire oui, il a participé chasseur d'appart contre Stéphane Plaza, blablabla.
L'anecdote... Après, honteuse, je sais pas. Je pense que je l'assume. Non, j'en suis même sûr. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils peuvent pas vraiment couper... ils peuvent pas couper au montage contrairement à ce qu'on pense. Donc dans l'idée, si dans une phrase tu dis quelque chose de pas convenable, ils peuvent pas la garder. Mmh. T'es obligé de la refaire. Si tu dis, eh ben là vous avez une putain de terrasse, ils peuvent pas couper le putain. Mmh. Ok.
Oui.
Et moi j'ai très vite remarqué ça. Genre au bout du deuxième jour, j'ai très vite remarqué ça. Et du coup, à chaque fois que je disais une phrase qui ne me convenait pas, parce que j'avais bafouillé ou parce que j'avais dit un truc, je finissais par dire un gros mot. Pour être sûr qu'ils ne le gardent pas au montage. Ah. Alors, ils ont quand même gardé 2-3 casseroles. À un moment, je fais une énorme faute de liaison, je crois, ou de trucs. Bon, je suis un peu dyslexique aussi, des fois, dans ma façon de parler. Mais du coup, ils doivent avoir des heures et des heures de rush où je dis des gros mots dans tous les sens. Parce que je dis une phrase genre, et voilà, maintenant on est à Truchterzasma, bordel de bite de couille.
Ah ouais ?
Ouais, pour justement qu'ils gardent pas la séquence. Ouais.
Il devait être là devant toi, genre.
Fred, il faut qu'on la refasse. Oui, je sais.
Ça tombe bien.
Donc du coup, j'ai pu à peu près maîtriser tout ce que je disais tout le temps parce que j'avais capté cette petite astuce, voilà. Mais si un jour, je deviens super célèbre, ils vont ressortir les dossiers, ils vont faire au moins 10 minutes rien qu'avec moi disant des insultes.
Non, mais c'est un flou, c'est un bon truc, tu vois. C'est une bonne astuce.
Ouais, c'est une bonne astuce, hein, quand tu l'as...
Ouais.
Tu gardes les... si je dis
Ouais.
connard, bite...
Ouais.
tu gardes tout ça?
Ouais,
Ah,
bah.
bah, zut.
Non, politiquement incorrect.
Ah.
Pas de problème. Alors, on a bientôt fini le podcast. Et moi, j'aime bien poser une dernière question pour tous mes invités. C'est quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné? Voilà. Là,
What?
alors là, il faut choisir entre beaucoup de conseils super bien qu'on t'a donné.
Ne mets pas tes doigts dans ce mixeur. Ça, franchement.
Eh, mais il y a eu plein d'accidents, des boulangers qui se sont fait happer par des machines.
Ah oui, ah bah oui.
Donc là, là
Ah,
c'est
mais
qu'à
c'est
le
un
dire.
vrai bon conseil. Ne mets pas tes doigts dans ce mixeur. Attends, tu t'attendais à un truc
Ils se sont fait
philosophique.
pétrir à la place de la pâte.
Ouais.
Ah,
Ça peut
c'est.
arriver. Bon, après, il y a des
Ouais.
grilles de protection et tout, mais il y a toujours. Bah, dans tout métier, il y a des accidents. Hein. L'agent immobilier, c'est de plus avoir de batterie. Ça, c'est un accident du travail, tu vois. Ça, on n'est pas bien. Quand il nous reste 4% de batterie, tu vois, t'es pas bien.
Ouais, mais t'as genre le câble pour dans la voiture, la batterie de secours
Ouais,
transportable, le truc
faudrait.
solaire.
Faudrait que je l'aie. J'ai pas, mais faudrait que je l'aie, ouais.
T'as au moins un câble pour la voiture.
J'ai un câble pour. En fait, j'en ai changé il y a pas longtemps mon téléphone. Donc, il a la première année de vie d'un téléphone, t'as encore une batterie correcte qui
Oui.
tient toute la journée, tu vois. Même si, mais effectivement, quand t'arrives un peu en fin de vie, quand t'as un iPhone qui a
Ouais.
3 ans, t'es obligé de le
Bah, tu
brancher
fais, c'est un fixe.
tout. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un
Hein.
téléphone fixe. Un bon conseil qu'on m'a donné. Ouais, je reviendrai sur ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir qu'un échec, c'est le meilleur professeur.
C'est un très bon conseil que tout le monde devrait appliquer et c'est pas grave les échecs.
Exactement. Mais ne mettez quand même pas vos doigts dans les mixeurs.
Surtout s'il est allumé et vous appuyez sur power.
Oui.
Donc merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast.
Mais merci à toi pour l'invitation. C'était très agréable.
Très
On a
marrant.
parlé de nos selles et tout, donc c'était.
Ouais, c'est vrai.
Je pensais pas qu'on arriverait à ce niveau d'intimité, tu vois. Et finalement.
Non plus. Mais bon, on a passé le cap. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite?
Bah, du pognon.
C'est
Non, mais.
bien un million.
Continuer dans cet amusement quotidien.
D'accord.
Et moi,
Ben,
qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite?
que mon podcast soit entendu et reconnu par beaucoup de monde.
Ben, je le partagerai.
Oh, merci, c'est
Bon, j'ai
gentil.
que 400 likes sur ma page, t'affole pas non plus. Hein.
Non, mais
Je suis pas
t'inquiète.
influenceur non plus.
Moi non plus. Alors voilà, on verra ce que ça donne. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Mais avant de partir, tu peux prendre juste 2 minutes pour soutenir mon podcast en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si tu as un iPhone. Sinon, tu peux me suivre sur Spotify. Ça me permettrait de me faire connaître en remontant, tu vois, dans l'algorithme. Ça toucherait plus de personnes et on serait une plus grande communauté à m'écouter. Tu peux aussi le partager à un ami. Peut-être que ça l'inspirera, peut-être qu'il en aurait besoin aujourd'hui pour être reboosté. Et si tu veux être au courant des prochains épisodes, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt.